Micro ouvert sur Marmite FM.
Venez faire découvrir vos projets, votre association, vos événements. Le micro est ouvert, vous avez la parole.
Donc en fait, c'est une exposition presque triple parce que...
Le principe, c'est qu'on va mettre des poètes, de la musique et...
Et voilà, c'est du jeu de rôle grandeur nature, c'est une enquête policière.
40 personnes qui ont trouvé vraiment l'idée très intéressante.
C'est pour le plaisir du jeu et du temps partagé ensemble.
Micro ouvert sur Marmite FM. Nouradine Anne.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Micro ouvert sur Marmite FM 88.4. Aujourd'hui, nous parlons des élections municipales de 2021 à Trappes, élections partielles, avec notre invité Othmane Nasrou. Bonjour.
Bonjour.
Tête de liste Engagement Trappes Citoyens, vous êtes avec nous donc pour nous parler de vos propositions pour les trappistes pour les 5 ans à venir. Je rappelle les dates du scrutin, donc les 10 et 17 octobre prochains. Alors Othmane Nasrou, ce scrutin aura lieu donc en octobre suite à l'annulation des élections par le Conseil d'État au mois d'août. Vous étiez déçu de ne pas voir le maire sortant Ali Rabet déclaré inéligible. Vous l'avez notamment expliqué en disant que vous ne compreniez pas forcément la logique de cette décision. Expliquez-nous.
Ce n'est pas une question de déception, c'est une question de cohérence. La justice a, à plusieurs reprises, et de manière incontestable, établi que Ali Rabet avait triché en 2020. Simplement, il a triché, il a le droit de se représenter. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour le débat municipal, que les gens puissent choisir clairement s'ils veulent continuer avec un élu qui a triché lors des élections municipales et qui, durant l'année où il a été en fonction, n'a pas toujours respecté les règles. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. En tout cas, ce n'est pas ce que je veux pour Trappes. Et je constate simplement que dans cette élection-là, il y a cette décision de justice, je veux le dire, parce qu'on présente toujours les choses d'une manière détournée. Que j'ai fait ou pas ce recours, l'élection aurait été annulée. Elle aurait été annulée pour une raison simple, parce que la commission des comptes de campagne a également saisi la justice quand elle a constaté les irrégularités dans la campagne d'Ali Rabet. Donc ça veut dire qu'on aurait de toute façon eu une élection annulée parce que cette élection ne s'est pas faite dans les règles. Il y a eu des comptes de campagne qui n'ont pas été respectés, des règles de financement électoral qui n'ont pas été respectées. Et on est en train de mentir aux trappistes en leur expliquant que c'est juste de la solidarité, que ce n'est pas très grave, etc. C'est faux, il y a eu tricherie et moi je ne veux pas avoir ces méthodes-là à la tête de la mairie. Et donc c'est pour cela que je trouve ça très bien que M. Rabet puisse se représenter afin que les électeurs puissent très clairement dire s'ils veulent être dans le respect des règles ou être dans le clientélisme.
Mmh. Alors l'actu chaud de Othmane Nasrou, c'est le ralliement de Guy Malandin, donc ancien maire de Trappes, à votre liste. Alors comment s'est fait ce ralliement de Guy Malandin? Quelles ont été les causes?
Écoutez, les choses là aussi sont assez simples finalement. On ne peut pas laisser à la tête de la mairie quelqu'un qui donc a été épinglé par la justice, mais qui globalement se comporte depuis un an d'une manière qui nuit aux intérêts de la ville, qui coupe les subventions aux associations dès qu'il considère qu'elles ne sont pas de son bord politique. Je pense par exemple aux associations de solidarité envers les personnes âgées, dont certaines ont vu leurs subventions réduites de moitié, sous prétexte que son président n'était pas sur la bonne liste. Si c'est ça la générosité, si c'est ça le social, moi je pense que c'est l'inverse qu'il faut attraper. Ça s'appelle le clientélisme, ça s'appelle tout politiser. On sait tous, et ceux qui nous écoutent le savent, je pense, l'ambiance qui est à la mairie, comment sont traités les agents municipaux, avec des dizaines qui sont partis, parfois en dépression nerveuse, parce que tout simplement, on leur demande de faire de la politique. Ça n'est pas leur rôle. Moi, je n'ai pas le sentiment que la ville est gérée dans l'intérêt de la ville. Je pense qu'elle est au service depuis un an d'un clan, d'un parti, du seul parti de M. Rabet. Et je pense que Guy Malandin a fait le même constat, il le dit, il a eu l'occasion de le vérifier durant le conseil municipal, dans les décisions qui sont prises, dans les retours qu'on a de toute une partie de la ville. C'est le contraire qu'on veut pour Trappes. On veut de l'intérêt général, on veut de l'apaisement, on veut de la sérénité, on veut du rassemblement. Nous ne sommes plus dans les clivages partisans. Ce qu'on a en face de nous, c'est un système de clientélisme absolu. Et donc, il est normal que les Républicains de tous bords, moi je l'ai dit au moment où j'ai déclaré ma candidature, s'unissent pour que la ville retrouve une gestion sereine et une gestion locale qui soit dépolitisée et qui tire la ville vers le haut.
Comprenez-vous que les trappistes puissent être étonnés, en tout cas, de ce ralliement pour celles et ceux notamment qui suivent l'actualité politique de Trappes depuis des années et qui pourraient se dire, bon, Othmane Nasrou et Guy Malandin se sont envoyés quelques amabilités depuis ces années. Je vais justement vous faire écouter l'intervention du maire sortant, donc Ali Rabet, qui reprend justement cette argumentation en disant qu'il ne comprend pas le ralliement de Guy Malandin. On l'écoute.
Il disait dans d'autres tracts que la gestion de la ville n'est ni rigoureuse ni transparente, que la gestion est absurde. Il accusait Guy Malandin d'avoir détruit 3000 emplois depuis qu'il était maire. Il disait même, accrochez-vous parce que c'est d'une violence inouïe. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, Guy n'a pas sa lucidité. Il ne peut pas avoir oublié ce qui est écrit là. Il disait que la ville de Trappes était malade à cause de Guy Malandin. Malade du travail de l'équipe de Guy Malandin. Guy Malandin disait d'ailleurs d'Otman Nasrou, parce qu'il l'attaquait en justice à l'époque, rappelez-vous, il l'attaquait en diffamation. Parce que Nasrou l'accusait de chasse aux sorcières.
De chasse aux sorcières, oui.
Guy Malandin disait, par écrit, hein, pas à l'oral, pas à Marmite FM, non, il l'écrivait dans ses tracts officiels aux trappistes, que Otman Nasrou était un jeune homme bien prétentieux, un menteur, qu'il l'avait diffamé, qu'il n'était pas respectueux.
Voilà, donc c'est la tonalité de ce que Ali Rabé a dit par rapport à cette union, à ce ralliement de Guy Malandin. Voilà, il est même venu avec d'anciens tracts de 2014 sur lesquels voilà, il y avait plusieurs choses marquées. Qu'est-ce que vous allez dire en réaction à ça ?
Déjà, je constate que M. Rabé a bien suivi la campagne 2014, alors même qu'il était élu à Poissy à l'époque. Je constate qu'il a réussi à faire deux campagnes en une. Donc ça, c'est une chose que je note, parce qu'encore une fois, on peut exhumer des choses qui ont des années. Il y a beaucoup de mensonges dans ce que dit M. Rabé. Je n'ai jamais utilisé le terme de malade. Jamais M. Malandin ne m'a traité de menteur. Ce n'est pas son vocabulaire, d'ailleurs, pour ceux qui le connaissent. On a eu des divergences, bien sûr, on a eu des divergences. Mais on a aussi appris à se connaître. Moi, j'ai mûri. Je me suis préparé, j'ai appris beaucoup, c'était ma première campagne politique. Lui aussi a compris que la situation de la ville nécessitait le rassemblement. Je vous rappelle que moi, ce rassemblement, il n'est pas nouveau. J'ai commencé à le faire avec Mustapha Larbaoui dès 2020 et ça a fonctionné, puisque la justice a établi que cette élection a été altérée. Et donc, si nous avions été si près du but et qu'il n'y avait pas eu toutes ces manœuvres, y compris un certain nombre de montages vidéo anonymes qui me traitaient d'islamophobe, probablement que la ville aurait déjà connu un changement important, et on a perdu malheureusement un an pour réaliser ce changement. Donc ce rassemblement, il se poursuit aujourd'hui avec Guy Malandin, parce qu'encore une fois, la divergence entre M. Rabé, ça n'est pas simplement une divergence de fond, c'est une divergence de méthode. Il nous parle tout le temps de bienveillance, et regardez dans quel registre il nous entraîne à chaque fois. Il nous parle de procédure en justice, il en a lancé une vingtaine depuis qu'il est là, aux frais du contribuable. Je ne vous parle pas non plus des recrutements illégaux qui se font hors procédure à la mairie, simplement parce que ce sont des gens qui l'ont soutenu, aucun eu leur carte dans le bon parti. On est en train aujourd'hui de tuer ce qui faisait la spécificité de Trappes, c'est-à-dire une vie locale dynamique, certes, mais où on arrivait quand même à mettre les questions de carte politique de côté. Et là, on est en train à nouveau de mettre la ville à feu et à sang, et c'est pour cela que nous sommes unis, pour rien d'autre. Et entre Guy Malandin et moi, comme avec Mustapha Larbaoui, il y a du respect, mais il y a aussi en commun les valeurs de la République, des valeurs dans lesquelles, décidément, M. Rabé se détourne.
Alors, pour préciser, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, en 2014, c'était les élections municipales de Trappes, donc Ali Rabé était dans la liste de Guy Malandin.
Tout en étant, il lui a passé dans le même
voilà.
temps.
Et il était dans la liste, c'est-à-dire qu'il a fait aussi la campagne ici.
Oui, tout à fait, sans démissionner de Poissy.
Quel bilan tirez-vous de cette première année du mandat d'Ali Rabé?
Moi, s'il y a des choses positives, je les soutiens. Et s'il y a des délibérations qui vont dans le bon sens, je vote pour. Je l'ai toujours fait depuis que je suis élu de Trappes. Ça fait 8 années que je suis engagé à Trappes. Je connais cette ville, je connais les trappistes et je sais qu'ils veulent que la ville avance. Et donc, je n'ai pas de problème avec ça. Simplement, malheureusement, en un an, il ne s'est pas passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Et ce qui n'est pas lancé là du tout la première année, quand les procédures ne sont même pas engagées, ne risque pas de voir le jour sur le reste du mandat. Je connais cela, je suis vice-président de la région, j'ai été vice-président de l'agglomération, je connais le fonctionnement des collectivités territoriales. Donc il y a beaucoup de communication, mais derrière, est-ce que la ville est plus propre? La réponse est non. Est-ce que le cadre de vie est meilleur? La réponse est non. Est-ce que les commerces ont été diversifiés? La réponse est non. Est-ce que la ville est allée chercher des subventions nouvelles? Là, la réponse est trois fois non, que ce soit de l'agglomération, du département ou de la région. Jamais la ville n'a été autant isolée. Est-ce que la rénovation de Camus a avancé? Ça fait un an, il ne s'est rien passé, même pas une réunion avec les habitants, qui sont totalement abandonnés, avec une rénovation urbaine, il faut qu'ils le sachent, qu'ils n'avancent plus, parce que le dialogue avec M. Rabé est très difficile. Nous ne sommes pas les seuls, nous, à avoir un dialogue difficile. Les partenaires de la ville aussi, dont l'ANRU, font savoir que c'est compliqué.
Est-ce que l'Agence nationale de rénovation urbaine.
Tout à fait, l'Agence nationale de rénovation urbaine qui finance les grands projets de rénovation, et il faut absolument qu'on rénove Camus et qu'on ne laisse pas ce quartier dans l'état de délabrement et d'abandon dans lequel les habitants sont, et quand on y va, ils n'ont vu personne en un an, malgré les promesses. Je ne vous parle pas de toutes les promesses, M. Rabé avait même promis de mettre des ascenseurs dans les immeubles qui n'en avaient pas. Dans son projet de 2020, évidemment que c'était totalement surréaliste. Il promet maintenant un vélo à tous les enfants de 3e. Est-ce que le rôle de la ville est d'offrir un vélo à chaque enfant? Très franchement, il faut qu'on arrête avec les cadeaux. De toute façon, c'est l'argent du contribuable. Il faut être sérieux. Et les dossiers sérieux, eux, n'avancent pas. Un dernier exemple, c'est sur la qualité du logement. Il a repris tout notre argumentaire, et c'est tant mieux, sur les bailleurs sociaux. alors même qu'il était adjoint en charge de ce sujet, hein, et rien n'a avancé. Est-ce qu'il y a un seul locataire aujourd'hui qui vit mieux ? Est-ce que les questions d'insalubrité ont été réglées ? Est-ce que le contrôle des charges a avancé avec l'aide de la mairie ? Non, il a avancé avec l'aide des associations de locataires, mais seul, contre la mairie bien souvent. Il n'a même pas voté contre l'augmentation des loyers du bailleur Val Office. Donc moi je veux bien les opérations de communication, mais depuis un an, la réalité, c'est qu'on perd un temps précieux sur des sujets importants.
Dernière chose pour cette première partie d'émission, Othmane Nasrou, on parle plutôt de l'actualité chaude avant de venir sur le programme. Vous avez évoqué tout à l'heure une vidéo sur l'islamophobie qui avait été faite contre vous lors de la première élection municipale, juste un petit peu avant le premier tour, hein, si ma mémoire est exacte, juste avant le premier tour. Une vidéo qui vous a clairement nui, qui vous a peut-être d'ailleurs fait perdre les élections, entre autres choses, ça c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et en même temps, il y a quelque chose qui peut paraître étonnant, c'est que vous avez témoigné récemment de la situation de Trappes dans un magazine, Valeurs Actuelles, qui est un magazine qui est considéré par beaucoup comme un magazine islamophobe et qui balance. J'avais eu l'occasion de faire un décryptage média il y a quelques années sur un article qui avait été fait sur Trappes où 99% des choses qui avaient été dites dans ce journal était factuellement fausse. Alors, comment est-ce que vous gérez justement ce côté où vous dénoncez ceux qui vous accusent d'islamophobie et en même temps, le seul journal qui avait témoigné en tout cas de ce qui se passait récemment hein, sur la situation de Trappes, c'est Valeurs Actuelles.
Alors pardon, moi j'ai été contacté par un journaliste, pas pour traiter une question d'islamophobie, mais pour traiter la question de la gestion de la ville. Mmh. Et moi je réponds par définition à tous les journalistes. Là, vous parlez de Valeurs Actuelles, j'ai aussi répondu à Mediapart, qu'il me semble n'est pas tout à fait de la même sensibilité. Mmh. C'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. Et donc, je réponds aux questions qu'on me pose.
Où on vous mettait en cause, notamment par rapport à des financements.
Bien sûr, un article qui a été demandé le jour même du rejet des comptes de M. Rabé, donc Mediapart est venu enquêter et j'ai répondu à toutes les questions. Ça ne veut pas dire que je partage avec Mediapart toutes les idées. Et Valeurs Actuelles a fait un papier, encore une fois, pas en me parlant à moi simplement, hein, mais en parlant à des élus de gauche. Je pense à une ancienne sénatrice, Catherine Tasca, je pense à une ministre comme Emmanuel Cos, qui ont tous dit la dangerosité de M. Rabé et son double discours. Ça,
vous savez pourquoi je vous pose cette question ?
Non, vous allez me le dire.
Parce que c'est justement un argument qui est utilisé pour aller dans le sens de dire que, vous voyez, Othmane Nasrou, la vidéo qui est sortie sur lui, il l'a critiquée, il l'a dénoncée. Et en même temps, il va s'acoquiner, entre guillemets, avec un journal d'extrême droite. C'est l'argument qui est présenté, notamment par votre opposant principal.
Oui, on a vu le spectacle désolant qui a été celui donné par M. Rabé à la télévision sur CNews. Je ne crois pas que M. Rabé soit sur la même ligne éditoriale que CNews. Personne ne lui fait ce procès. Mais moi, je trouve que M. Rabé, qui n'arrête pas de dire qu'il est dans la bienveillance, met beaucoup d'énergie à essayer de démontrer, donc, un jour que je suis islamophobe, l'autre jour que je suis communautariste. Il a dit ça aussi au journal Les Échos. Si on pouvait sortir des attaques personnelles, Moi, encore une fois, je n'attaque pas M. Rabé sur sa personne. Je l'attaque sur sa gestion, sur les décisions qu'il prend, sur les méthodes qui sont les siennes. Je parle pas de ce qu'il est. Ce qu'il est n'est pas mon sujet. C'est ce qu'il fait qui me pose problème. Et ce qu'il fait, encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Ce sont ses amis de gauche qui l'ont fréquenté. Ce sont des élus de gauche qui ont parlé à Valeurs Actuelles. Ce sont des agents de la mairie qui sont partis. Quand on rapporte qu'il a dit au directeur de la communication en le licenciant, de toute façon pour vous il y a une place au cimetière, je suis désolé, c'est pas moi qui l'ai rapporté ça, j'étais pas là à cet entretien-là, c'est ce monsieur qui est parti, et qui d'ailleurs n'est pas de ma famille politique, qui était de gauche. Donc le problème de M. Rabé, c'est d'abord un problème avec lui-même, et c'est un problème, encore une fois, qu'on retrouve avec des élus de son équipe qui sont partis, avant même la décision du Conseil d'État. Des conseillers municipaux délégués, des adjoints qui l'ont lâché parce que la manière de fonctionner n'est pas adaptée à notre ville. Nous avons besoin d'une gestion apaisée et contrairement à ce qu'il veut faire croire, on va tout faire pour aller sur le fond dans cette campagne, malgré les effets de manche, malgré les effets de communication, parce qu'on a perdu un an. Et moi, ma seule préoccupation aujourd'hui, avec Mustapha Larbaoui et avec Guy Malandin, parce que chacun lui reconnaît, malgré les divergences qu'on peut avoir, qu'il a un vrai intérêt à cette ville pour laquelle il a consacré 20 années de sa vie, eh bien, on est tous les trois, et toutes nos équipes, et tous nos soutiens, ils sont nombreux, eh bien, engagés pour une seule chose, redresser la ville de Trappes et fermer la parenthèse qu'on connaît depuis un an, qui n'est pas bonne pour la ville.
Parlons, Othmane Nasrou, du programme maintenant, de votre programme. On va parler d'éducation. qui était une de vos priorités. En tout cas, c'est ce que vous annonciez dans les 10 engagements que vous avez adressés aux trappistes notamment. On va parler de l'éducation, puisque vous aviez dit notamment que plusieurs de vos adversaires politiques s'étaient inspirés de votre programme au niveau de l'éducation pour le mettre en place. Mais écoutez, les 4 jours ont été mis en place. Bon, selon les informations que j'en ai, en tout cas, ce que j'ai enquêté, le passage aux 4 jours s'est plutôt bien passé, parce que de toute façon, c'était une demande de beaucoup d'habitants et également des enseignants. Vous avez indiqué sur ce point précis au niveau de l'éducation et de l'étude gratuite dans vos propositions, je vous cite, « Vous souhaitez améliorer le contenu et la qualité de l'accompagnement. Est-ce que vous constatez des dysfonctionnements dans, par exemple, cette heure d'étude gratuite qui a été réinstaurée à ce mois de septembre pour cette rentrée ?»
Écoutez, depuis 2014, je me bats pour effectivement qu'on revienne aux 4 jours, pour qu'on remette en place l'heure d'étude dont Alirabi avait voté la suppression, pour qu'on plafonne les tarifs de la cantine des activités périscolaires et pour que les modalités d'inscription soient plus courtes et plus souples. Donc je suis heureux quand les choses vont dans le bon sens. Mais il ne faut pas faire de l'affichage. Et ce que je constate, c'est qu'on a voté les principes de ce type de choses, mais derrière, la réalité n'a pas toujours suivi. Et en tout cas, il y a des vraies améliorations à apporter, et c'est mon projet. En l'occurrence, il manquait à la rentrée 10 ATSEM qui n'ont pas été là. Je vous ai parlé des conditions de travail des agents qui sont extrêmement difficiles. Nous devons renforcer l'encadrement dans nos écoles, et moi je souhaite qu'on ait désormais un ou une ATSEM par classe, donc on renforce considérablement, comme le font d'autres villes, l'accompagnement autour du pédagogique, qui n'est pas suffisant. L'heure d'étude, je vais le redire ici pour que tout le monde comprenne bien, c'est une heure d'étude, c'est pas une heure de garderie. Là, pour l'instant, ce qui est mis en place, ça dépend des écoles, mais dans certaines écoles, c'est une heure de garderie. On ne va pas améliorer le niveau scolaire en faisant faire à nos enfants des Scooby-Doo, pardon, de la trivialité. Ça suppose des équipes qui soient formées, qui aient les qualifications pour, et un vrai contenu. Sinon, ça s'appelle de la garderie, et ce n'est pas pour cela que je m'étais engagé, moi, dès 2014. C'est vraiment que ce soit une heure d'aide aux devoirs et de soutien scolaire.
Mais comment vous comptez faire ça, justement? Parce que une des difficultés qui avaient été mises en avant par la mandature précédente, c'était de dire que bon, si ce ne sont pas les enseignants qui assurent ces heures d'études, il faut embaucher des gens à l'extérieur. Et ce qui avait été reproché, bon, c'est qu'il y avait beaucoup d'animateurs qui n'étaient pas forcément formés. Et du coup, ça pouvait effectivement aller dans des dérives comme voilà, des heures de garderie. C'est ce qui était ressorti. Donc comment faire? Comment vous allez faire concrètement si vous êtes élu pour faire en sorte que ces heures d'études soient des heures d'études?
Moi d'abord, je veux pas blâmer les animateurs, parce que les animateurs, ils ne demandent qu'à être formés. Hein. Et c'est le rôle d'un employeur, quel qu'il soit d'ailleurs, de former ses agents. Et il y a des formations courtes hein, sur ce type d'accompagnement qui peuvent être proposées. Mais la réalité, c'est qu'en voulant faire de l'affichage à tout prix, en voulant aller trop vite, en voulant simplement afficher des résultats parce qu'on sait que tôt ou tard, la justice va annuler l'élection parce qu'on sait qu'on n'a pas respecté les règles, eh bien, malheureusement, on met la charrue avant les bœufs. Et le principe, il est en place, mais maintenant, il faut faire tout ce qui va derrière. C'est pareil pour la cantine. Moi, j'ai plaidé pour le plafonnement des tarifs qui montaient beaucoup trop haut pour les classes moyennes. Maintenant, il faut faire de la qualité dans les assiettes. Ça ne doit pas se faire au détriment ni des quantités, ni des qualités. Il y a 2 menus qui sont proposés aujourd'hui. Très bien, c'est quelque chose aussi que nous voulions faire. Mais là aussi, ça ne peut pas se faire au détriment de la qualité.
On a une cuisine centrale.
Donc on a une cuisine centrale, même dans laquelle... Et ça, c'est vrai que c'est le bilan de Guy Malanda. D'autres villes ont commencé à s'approvisionner. Je peux vous dire au moment où je vous parle que certaines villes vont se retirer parce que malheureusement, la qualité est en train de se dégrader. Et quand on voit l'ambiance et la manière dont est gérée la ville, on comprend qu'il y a une démotivation des agents. Et je veux profiter de votre micro pour leur lancer un message d'espoir, pour leur dire que voilà, bientôt, je l'espère, ils seront respectés à nouveau, responsabilisés, avec une gestion des carrières, avec des formations qui les tirent vers le haut, pour que le service qui soit rendu aux habitants soit un service de qualité et pas simplement une phrase sur un tract électoral.
Alors pour les auditeurs, les auditrices qui pourraient se demander voilà, pourquoi j'insiste sur certains points et pas d'autres, voilà, j'ai bien conscience que l'éducation c'est un problème global. Ça ne concerne pas que l'étude ou que les 4 jours, etc. Voilà. C'était des points précis pour répondre à certains questionnements que j'ai notamment entendus. On va passer, Otman Nostrou, si vous le voulez bien, maintenant à la sécurité avec la police municipale. Alors, quelle est la stratégie? Quelle est votre stratégie au niveau de la sécurité globalement, mais principalement de la police municipale qui est perçue à Trappes, vous le savez certainement, comme voilà, les agents municipaux à Trappes sont souvent perçus comme des agents qui sont là pour mettre des amendes de stationnement. Voilà, on pourrait dire que c'est un peu caricatural peut-être, mais voilà, c'est la plupart des propos que l'on entend quand on discute avec les Trappes. Alors, quelle est votre stratégie ?
Écoutez, c'est toujours la même. C'est un projet sur lequel on s'est engagé en 2020. Et là aussi, je vois qu'on reprend nos mots, mais les mots ne suffisent pas à changer la réalité. Il faut des actes. La police municipale, elle est placée sous l'autorité du maire et donc elle fait ce que le maire lui demande et ses missions sont définies par les élus. Et donc vous avez raison de dire que mettre des amendes là où ça ne pose pas de problème, là où il n'y a pas de stationnement gênant, ça n'est pas la priorité au regard aussi de tous les enjeux qu'on a. Moi, j'attends d'une police municipale qu'elle soit présente pour lutter contre les nuisances, les incivilités, qu'elle soit dans le dialogue, qu'elle permette aussi de remplacer la police de proximité qui n'existe plus. C'est la police de proximité dans le dialogue avec une partie de la jeunesse, dans l'appropriation de l'uniforme, mais aussi, bien sûr, de lutter contre les occupations de hall, de lutter contre les rodéos sauvages et tout ce qui fait que, contre l'ivresse sur la voie publique, tout ce qui fait que aujourd'hui la police nationale ne se déplace plus, mais les habitants sont livrés à eux-mêmes. Ça ne marchera pas avec une police municipale à effectif anecdotique qui ferme tous les jours à 17h. Ça ne peut pas marcher. Et la réalité des chiffres, quelle est-elle ? Il y avait 8 agents de la police municipale quand M. Rabé a été élu. Il n'en reste que 4 aujourd'hui. Même les départs n'ont pas été remplacés. Pas un seul recrutement en un an, alors qu'au contraire, 8, c'était déjà extrêmement faible. On en est à 4 aujourd'hui. Donc moi, je veux bien que là aussi, tout à coup, on reprenne nos mots après m'avoir expliqué pendant des années que ce n'était pas la responsabilité de la municipalité. Mais moi, je vous le dis, nous aurons demain une police municipale de 30 agents, c'est le bon ratio, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais dont les missions sont des missions de tranquillité publique et de cadre de vie, et pas des missions qui, évidemment, qui viennent embêter les habitants. La police municipale, elle est aussi service des trappistes, c'est ça qu'il faut qu'on retrouve, mais ça passe aussi par des effectifs conséquents, parce que je ne veux pas ici qu'on accuse les agents simplement de respecter les consignes que leur hiérarchie leur donne.
On va passer à une autre thématique, Othmane Nasrou, le logement. Je vais vous faire écouter un extrait, justement, c'est une habitante qui témoigne. Lundi matin, il y a une mobilisation devant les 3 et 4 squares de la commune de Paris. Alors, à Trappes, on dit le square de la commune. On ne dit pas le nom complet, mais ça, c'est depuis le début. On dit square de la commune. Donc, les 3 et 4 squares de la commune, donc à Trappes. Deux choses étaient... les habitants reprochaient, donc, notamment aux bailleurs, deux choses. La première, c'était un incendie qui s'est déclaré samedi 11 septembre vers 22h30. Qui est dû, cet incendie, à la vétusté des installations électriques. C'est ce que nous ont dit les habitants. Et puis autre chose, lundi matin, donc, des ouvriers se sont présentés. Ils s'apprêtaient à mettre en œuvre des réfections, en tout cas des travaux. Et les habitants ont découvert que c'était des travaux de désamiantage. Ils se sont plaints du manque d'informations du bailleur Val Office. On écoute le témoignage de cette dame.
Ça fait 5 ans que j'ai fait une demande de logement.
Donc là, on voit que ça, le plafond, là, il est tout noir.
C'est tout noir. De là jusqu'à tout le tour, comme ça, tout c'est la chambre, ça.
Donc ça, c'est à cause de... C'est quoi, ça, c'est le, ça, l'incendie
c'est, non, c'est pas l'incendie.
Ah non, c'est l'humidité.
C'est l'humidité, c'est d'accord. Des champignons. J'ai fait venir un expert. Mm-hmm. Madame, elle est venue 3 fois chez moi, elle a pris des photos, elle l'a renvoyée. J'ai été...
de Val Office.
Voilà, oui. J'ai été au juriste. Mm-hmm. Qui leur a mandaté un courrier, qui vont envoyer un expert qui est venu. Ma maison, c'est pourri. J'ai été à Val Office, ils m'ont pris en rendez-vous, un nouveau le directeur. Il m'a dit, j'ai pas de logement pour vous, je peux pas vous reloger, je peux rien faire pour vous. Là, j'ai été à la mairie, j'avais rendez-vous avec madame. Elle m'a pris en rendez-vous. Elle m'a dit, je vais essayer de reloger votre fille en priorité parce que j'héberge ma fille avec ses 3 enfants chez moi. En fait, c'est 2 familles qu'il faut reloger. Je suis malade, je fais des embolies pulmonaires à répétition. Je fais de l'asthme. On est 3 personnes à être asthmatiques dans l'appartement. Et pour eux, c'est rien du tout. Regarde, madame, elle leur a dit, c'est un relogement. Il n'y a rien à faire dans cet appartement-là.
Ça fait combien de temps que vous avez fait
ça? Ça fait plus de 6 ans que je suis comme ça. J'habite là depuis 2000. Avant j'étais au 11, après au 11 ils ont démoli, on est parti au 16. Au 16 je suis venue au 4. Hein? Et là j'ai montré au maire, je lui ai dit, ils n'ont rien fait pour moi. J'attends toujours là qu'ils me relogent. Elle m'a dit, on n'a pas de logement, là je vais renouveler encore cette année là.
Voilà, donc j'ai recueilli plusieurs témoignages qui étaient tous dans cette tonalité. D'abord, est-ce que c'est possible pour la mairie, est-ce que c'est de sa compétence de pouvoir régler ces problèmes de locataires ou est-ce que c'est un problème plus global? Voilà. Ou est-ce que la mairie a vraiment un rôle à jouer au niveau du logement à Trappes, quand on sait que sur le logement social, si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit pourcentage de logements qui sont attribués par la ville. Alors, qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qu'on répond à cette dame qui, depuis 6 ans, par exemple, vit dans un appartement insalubre, sans compter ce qu'on ne nous a pas été dit. Enfin, ce qui a été dit aussi, il y a du squat, il y a du deal, et surtout, aucune réponse, ni de la mairie, ni du bailleur. Voilà, on aurait pu diffuser encore des propos un peu plus crus sur la situation.
Moi, j'ai entendu des témoignages comme ça, des dizaines et des dizaines de
juste,
fois.
Juste, Otman Lachreux, je vous coupe pour bien expliquer à nos auditeurs, auditrices. Quand on met un petit bip, c'est juste parce que la personne a cité des noms et que nous, l'objectif, c'est pas de donner des noms, parce que la dame qui est à la mairie ou la dame qui est à Val-Office, son nom de famille n'a absolument rien à voir avec la... Avec le propos, voilà, c'est juste pour dire que la personne est allée en mairie ou qu'elle est allée à Val-Office. Voilà. Excusez-moi de vous
en. Non, je vous en prie. Moi, j'ai vécu en 2013 la coupure d'eau à Thorez chez le même bailleur, Val-Office, pendant 4 jours, sans que personne ne s'en saisisse. J'ai vécu la régularisation des compteurs d'eau. Des situations d'insalubrité, j'en ai vu des dizaines et je suis venu parfois avec la presse pour obtenir des relogements. Ça, c'est le travail de la mairie. Ça, c'est le travail de la mairie. Et là aussi, on reprend nos mots, mais vous voyez bien dans ce que vous venez de décrire que rien n'a bougé en un an. Dans n'importe quelle ville, le maire met en demeure le bailleur de respecter ses obligations. Le locataire, il paye son loyer, il a des droits. Et le bailleur, il a des obligations aussi. C'est l'entretien, c'est la salubrité. J'étais à Camus, il y a eu un incendie devant... sur un palier, ça n'a même pas été repeint, même la sonnette est encore fondue. J'ai des situations de moisissure indécente, qui remettent évidemment en cause la santé. Mais dans ce qui relève de la mairie aussi, il y a des trous dans le trottoir, les trous sont toujours là, d'un mois sur l'autre, ils ne sont même plus bouchés. Donc, quand il y a ce laisser-aller de la part de la mairie, forcément, vous avez le même laisser-aller chez le bailleur. Demain, je veux le dire très clairement, mais vous savez que ça fait des années que je me bats sur ce sujet-là en particulier, que j'ai été le premier à m'en saisir, que là aussi, maintenant, on reprend nos mots, puisque... il y en a qui ont repris notre idée de cellule d'aide juridique pour les locataires. La mairie pourrait au moins faire ça, prendre en charge un certain nombre de dépenses juridiques pour aider les locataires. Là, pareil, on l'affiche, mais il n'y a pas un seul locataire qui a été aidé par la mairie en un an. Il faut faire l'inverse. Et donc, moi, je le dis, si nous sommes élus, dès que je serai élu, la partie est finie. La partie est finie et je convoquerai tous ces bailleurs et je leur dirai que désormais à Trappes, comme dans n'importe quelle ville, on tient les obligations légales. Autrement, la mairie ne sera pas un partenaire fidèle de leurs opérations. Et ça, croyez-moi, ils le comprennent bien. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous n'avançons pas sur ce sujet-là et la situation continue de se dégrader.
Nous allons maintenant parler, oui, parce que Ali Rabé a parlé d'un candidat qui promettait des logements à tout le monde. Voilà, je ne sais pas si c'est de vous qui parlez.
Oh, je pense que c'est une mise en abîme qu'il décrit lui-même. Non, mais Monsieur Rabé, il a une grande force, c'est qu'il accuse toujours les autres de ce qu'il fait lui-même. Moi, encore une fois, c'est pas moi qui ai aujourd'hui autant de mécontentement sur moi à Trappes. Vous le savez, même quand il se déplace, parce qu'effectivement, il faut pas faire de promesses individuelles. Et moi, vous ne trouverez personne à qui j'ai fait des promesses individuelles. D'ailleurs, ce qui explique aussi le résultat peut-être de la dernière élection. Donc, honnêtement, Monsieur Rabé a promis une campagne bienveillante. Je l'invite à rester sur le fond, même s'il n'a pas beaucoup de choses à son bilan.
On va terminer avec 2 points, Otman Nasrou. On va parler d'abord d'emploi. Qu'est-ce que vous proposez justement aux trappistes au niveau de l'emploi? Et là aussi, quels sont les leviers d'un maire, d'une ville, pour essayer de pallier en tout cas les difficultés spécifiques que rencontre une ville comme Trappes, notamment au niveau de l'emploi, par exemple des jeunes?
Ben voilà un sujet sur lequel typiquement on a une vraie différence et sur lequel... nous n'ont pas non plus encore été repris par Monsieur Rabé, parce que je constate qu'en un an, rien n'a été fait en matière d'emploi, et notamment vis-à-vis de l'emploi des jeunes, qui est aujourd'hui un drame absolu. Pourtant, il y a des dispositifs qui existent, et que la mairie ne sollicite pas, par sectarisme, je n'ai pas d'autres explications, par sectarisme, à la région, je porte, c'est moi qui le mets en place, l'aide au permis de conduire pour les jeunes qui cherchent de l'emploi, parce que c'est aujourd'hui un frein pour avoir accès à l'emploi. On prend en charge le permis de conduire jusqu'à 1300 euros. Pourquoi la mairie ne le fait pas savoir dans ses dispositifs de soutien à la jeunesse? C'est l'échelon de proximité, à moins de ne pas vouloir tirer vers le haut la jeunesse. On a des formations professionnelles qualifiantes, courtes, avec 70% de chances de trouver un emploi au bout, dans des secteurs comme le numérique, le BTP, la sécurité, le médico-social, l'environnement. Pourquoi la mairie n'a jamais, jamais répondu aux sollicitations des partenaires, en particulier de la région? Tout ça ne coûte rien à la ville. Moi, je pense que ce qu'on a eu depuis un an, c'est une gestion qui consiste plutôt à vouloir amuser la galerie. C'est du pain et des jeux. Si on va faire des barbecues, c'est une stratégie de campagne bien connue. On va faire cuire des merguez et les offrir. Ça va suffire à obtenir des voix, mais ça n'est pas l'attente de la jeunesse. Et c'est une marque de condescendance. Ce que veulent nos jeunes, c'est de l'emploi, c'est de la formation, c'est qu'on leur propose des perspectives. Et ils y ont droit, et ils le méritent, et ils en sont capables. Simplement pour ça, il faut arrêter de leur tenir un discours de victimisation et un discours simplement de loisirs. Les loisirs, c'est important, il en faut. Et je sais que beaucoup de jeunes veulent par exemple une maison des jeunes à Trappes, parce qu'ils cherchent des lieux aussi pour leurs loisirs. C'est tout à fait légitime, mais il faut de l'emploi, il faut de la formation, et ça sera ma priorité absolue. Et nous l'avions dit avec Mustapha Larbaoui, on va résumer ça en une phrase: aucun jeune de Trappes sans emploi ni formation. Je n'accepterai pas en tant que maire qu'on ne propose pas au moins une formation qualifiante à chaque jeune qui est en situation de décrochage scolaire. Ça, c'est un engagement que je prends. Je connais bien ce sujet-là. J'y travaille à la région, j'y travaille à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en tant que vice-président. Et demain, la ville pourrait bénéficier de tous ces dispositifs-là. Encore faut-il le vouloir.
Autre sujet important, c'est la diversification des commerces. Là aussi, puisqu'on a souvent, quand la question avait été posée, notamment, pas uniquement sur la municipalité de Trappes, hein, sur d'autres municipalités où beaucoup d'habitants se plaignaient d'un manque de diversité dans les commerces, il y a beaucoup de maires qui répondaient qu'ils n'avaient pas forcément de levier pour imposer, je ne sais pas, si on veut mettre par exemple une supérette de telle marque, ou si on veut mettre telle boucherie ou telle autre fleuriste ou je ne sais quoi encore. Voilà, quelle est votre stratégie à ce niveau-là qu'est-ce que vous comptez faire concrètement?
C'était un problème en 2020. Je constate qu'en 2021, il n'y a quasiment eu aucun commerce nouveau qui vienne remplir effectivement ce vide abyssal. Qu'on ne me fasse pas croire qu'on ne peut rien faire, dans les autres villes, ils ont les mêmes difficultés. Et pourtant, ils arrivent malgré tout à maintenir un petit commerce de proximité. Que dans une ville de 32 000 habitants, il n'y ait pas une charcuterie, une poissonnerie, une fromagerie, un fleuriste, c'est quand même une vraie spécificité. Et là, c'est pareil, il ne suffit pas de faire de l'affichage, ça se voit que rien n'est fait, puisqu'il n'y a aucun commerce nouveau. Pourtant, il y a des choses qui peuvent être faites. La ville pourrait, par exemple, rénover un certain nombre de locaux qu'elle possède et qui sont dormants, pour les proposer à des commerçants à bas prix, par exemple pour une durée de 6 mois, le temps que le commerçant teste son concept, parce que la crainte de beaucoup de commerçants, c'est de s'installer, c'est d'investir, et de se rendre compte qu'il n'y a pas la clientèle suffisante, et donc beaucoup n'osent pas franchir le pas. Moi, je suis convaincu que sur notre bassin de vie, on a la capacité, au moins sur l'exemple que j'ai donné, d'avoir ces commerces-là. On a la demande, donc je n'ai pas d'inquiétude, mais encore faut-il le faire. Ça suppose une culture économique, ça suppose un rapport au risque, ça suppose d'aider ceux qui prennent des risques, ça suppose de ne pas détester le secteur privé, et voilà, et vous voyez dans quel état sont les commerçants, même ceux qui sont installés, ils sont totalement abandonnés, il n'y a pas de dialogue avec la mairie, c'est un tout, et le commerce attire le commerce. On voit l'état aujourd'hui de nos marchés qui sont en train de se dégrader. Le marché de Jaurès est réduit à peau de chagrin, celui des mûrisiers souffre beaucoup également, pour discuter toutes les semaines avec les commerçants. Donc c'est un travail d'ensemble, de dynamisme économique pour la ville, mais pour les commerces en particulier, il est impensable que nous n'ayons pas au moins des commerces diversifiés comme dans d'autres villes, et ça c'est un engagement que je prends, et je suis en capacité de le mettre en œuvre.
Dernière question, Othman Nasrou, notre invité donc sur Marmite FM 88.4, qui concernera cette fois-ci l'image de Trappes. Ça fait partie donc de vos 10 engagements. Vous souhaitez améliorer l'image de Trappes. Alors, comment vous comptez faire, puisque l'image de Trappes, si ma mémoire était exacte, ça fait au moins peut-être 30, 35, 40 ans qu'elle est écornée. Souvent, ce n'est pas juste, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses positives qui se font à Trappes. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices, beaucoup de forces vives, beaucoup de gens qui ont des choses à proposer. Comment vous comptez, notamment peut-être par rapport aux médias, par rapport au rapport avec les médias, que les jeunes, que les moins jeunes peuvent avoir avec les médias, voilà, le traitement qui est fait sur cette ville. Voilà, qu'est-ce qu'une mairie peut faire concrètement pour améliorer cette image?
Moi, j'aime Trappes. C'est pour ça que j'ai choisi de rester engagé à Trappes. Ça fait 8 ans maintenant que j'ai fondé mon engagement politique, je n'ai jamais été candidat à une élection dehors de Trappes, je n'ai jamais été élu ailleurs qu'à Trappes, et je suis d'ailleurs le seul dans ce cas de figure. Et si je l'ai fait, c'est parce que c'est une ville, vous l'avez dit, qui est extrêmement attachante, dans laquelle il y a un formidable potentiel. Mais ça veut aussi dire qu'il y a des difficultés qu'il faut régler. Il faut le dire clairement, quand on aime, on veut du bien et on veut tirer vers le haut. Aimer, c'est pas juste de dire tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Et je constate qu'en un an, l'image s'est dégradée. Alors, il y a eu des polémiques, évidemment, qui ont été lancées, mais il y a aussi une gestion de ces polémiques qui a été désastreuse. Il ne faut pas donner une image, notamment quand on est le premier magistrat de la ville, qui soit agressive. Au contraire, il faut être dans l'apaisement. Il faut essayer de changer le réel pour le tirer vers le haut et pas simplement être là aussi dans l'affichage. Donc, moi, vous le savez, je suis un habitué des médias par mes responsabilités régionales. Et donc, j'ai bien l'intention d'avoir une vraie stratégie de communication qui vise à valoriser tous les atouts qu'on a à Trappes, tous les potentiels qu'on a. On parle beaucoup des comédiens, du monde de l'humour, etc. Mais on a aussi des chefs d'entreprise. On a des policiers. J'aimerais qu'on les voit, qu'on les mette à l'honneur. Et honnêtement, je suis convaincu que d'ailleurs, à l'occasion de cette élection, l'image de Trappes peut considérablement changer, parce que la réputation de Trappes aujourd'hui, elle n'est pas justifiée, mais c'est un travail de changer une image, comme des entreprises gèrent leur marque. Il faut qu'on gère correctement l'image de notre ville, et je pense avec l'équipe de rassemblement qu'on a, qui est justement une équipe qui n'est pas partisane, dans laquelle il y a des gens de toute sensibilité, je pense qu'on est en capacité de changer l'image de Trappes, et c'est en tout cas un vrai souci de préoccupation pour moi.
Pour conclure, comme il est de coutume, on va rappeler les autres listes. Au jour où nous enregistrons cette émission, bien sûr, Onkali Rabet, tête de liste pour que Trappes respire. Luc Miseret, tête de liste pour la liste donc Trappes à gauche. Patrick Planck pour Lutte ouvrière et Robert Nagaritanen, donc qui mènera lui une liste sans étiquette. Merci beaucoup, Otman Nasro, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes tête de liste pour Engagement Trappes Citoyen. Et que si les auditrices, les auditeurs ne l'ont pas encore appris, eh bien, Guy Malandin, l'ancien maire de Trappes, a rejoint donc votre liste d'union qui comportait déjà Mustapha Larbaoui. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Micro Ouvert.
Présenté par Nouradine Anne. Une chose à nous dire, c'est simple, le micro est ouvert sur Marmite FM.